cette rencontre en fait autour d'une collection et autour de, disons, deux volumes principalement qui sont ceux de Michel Foucault. La collection, c'est Audiographie, qui nous semblait être, voilà, dont on avait envie de parler parce qu'il nous semble qu'elle est aussi très symptomatique, très symboliquement représentative de ce que cette école et cette maison est, hein, maison des sciences de l'homme, c'est-à-dire d'abord un lieu de parole, ce qui était je dirais, au départ et dans l'histoire de ce lieu, central, ce qui est toujours central, même si maintenant il y a des enseignements. C'est cette idée de séminaire. Donc, de séminaire, c'est-à-dire d'un lieu où l'on échange, où l'on est dans la formation, disons, classique, c'était la fameuse dispute, hein, philosophique. Mais c'est vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette collection ? C'est une collection qui s'est donnée pour but d'interroger en définitive ce que c'est que parler pour des chercheurs en sciences sociales. L'invitation dans une sorte de mouvement collectif, cette chose-là est apparue pour une raison simple, qui était cette identité de séminaire. Et en même temps, ce problème central, je crois que pour l'ensemble des chercheurs, qui est celui de la transmission. Comment aujourd'hui transmettre ? Est-ce que la question de parole se pose d'autant plus que là, on est dans un dispositif très, très singulier, très intéressant, sous la question qui nous intéresse, c'est que c'est enregistré, que ça va être sans doute mis sur le web, et que cette histoire, au fond, de la parole, de la recherche, elle est très articulée à l'histoire des techniques. Alors, donc au départ, il y a ce double constat. Ce double constat qui est celui donc de la MSH et de l'HESS comme espace de parole et de séminaire. Et puis, un événement éditorial qui maintenant, vous pouvez en avoir quelques témoignages sur les tables, qui a lieu en particulier à l'école de l'étude, qui est l'édition des cours, et notamment des cours au Collège de France, mais pas seulement des cours au Collège de France, puisque votre étude publie un certain nombre d'autres enseignants. Je ne citerai que les plus visibles. Hein. Les éditions du Seuil ont publié le cours sur les cours de Barthes et vont les republier. Ça va faire l'objet d'une seconde édition, mais qui sera différente de la première. On pourrait évidemment parler des séminaires de Lacan, qui sont, je dirais, au cœur de cette problématique. Et qu'est-ce qu'on fait d'un séminaire comme celui de Lacan et comment on les édite. Pour information, c'est là encore l'objet d'un procès juridique qui s'ouvre, sur l'engagement de publier ces séminaires et en même temps le retard que ça a pris et en quoi ça peut constituer une rétention de l'œuvre. Pour Barthes, je l'ai dit, et pour Foucault, chose qui s'est un certain nombre de personnes ici ont vécu, l'édition des cours au collège. Ces éditions de cours et d'enseignement, ils ont, je crois, posé très clairement la question de l'oral dans les sciences sociales et de la périlité de la survie de ce moment éphémère que constitue un enseignement. Moment éphémère, donc, on avait jusqu'à présent, avant l'invention du magnétophone, comme trace, soit le cours écrit, soit les notes des auditeurs. Notes des auditeurs qui seraient en somme la véritable archive de l'enseignement, puisque qu'est-ce qu'un enseignement si ce n'est à un moment donné une parole qu'on adresse à quelqu'un. Et donc, pour moi, s'il y avait une édition des cours à faire, dans une démarche vraiment très radicale, ce serait d'éditer l'ensemble des gens qui ont assisté à tel ou tel séminaire. Et de faire ce texte très de construire cette chose très polyphonique qui pourrait être, au fond, ce qu'est un enseignement oral. Alors, cette question de l'oral, et notamment ces deux volumes qui sont l'un un entretien inédit avec un critique, le Beaudanger, avec le Bonnefoy, l'autre, à la fois un ensemble, j'y reviendrai, d'émissions radiophoniques dont on entendra une interprétation par le collectif F71 juste après que je me serai tué. Donc des émissions de radio des années 60 et deux ensembles de conférences. L'une sur langage et société, langage et littérature, et l'autre sur Sable, qui constitue donc un titre forgé, La Grande Étrangère, qui n'est donc pas Michel Foucault, mais contrairement à ce que certains pensaient, mais la littérature et le Beaudanger, qui n'est pas non plus. Alors, ce geste éditorial, puisqu'il s'agit d'un geste éditorial, évidemment, il n'est pas anodin. Publier les cours, ce n'est pas non plus anodin. C'est-à-dire que ça transforme, ça modifie quelque chose de l'œuvre, même si dans le cas de Foucault, on a toujours dit, et il a toujours dit, qu'il n'y avait pas, d'œuvre. Il s'est toujours défendu de cette notion d'auteur. Alors, je ferai là un petit écart en mobilisant ce qui a pu se passer autour de Thérèse Delivieux, qui est une autre figure de la MSH, qui a fait un haut lieu en fait des études thérésiennes. Il y a eu beaucoup de choses, et il y a tout récemment encore un colloque, je crois, avec le cas, parce qu'on a eu tendance à complètement, vous avez ce constat-là avec Pierre-Antoine Fabre, finalement, à faire sortir totalement la théologie, finalement, des sciences sociales, comme la psychanalyse, regardez depuis 20 ans, c'est très. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de travaux qui peuvent nous éclairer, et notamment le travail qui a pu être fait sur les éditions de Thérèse de Lisieux, de Thérèse Martin, non pas seulement après son procès en canonisation, mais encore récemment, avec la question des derniers entretiens. Les derniers entretiens, c'est quoi? C'est ce moment où Thérèse est en train de mourir, et là, 20 ans, et sur son lit d'infirmerie, elle, dans le brancard, elle dit des mots, elle dit une petite phrase, un petit énoncé, et deux sœurs notent ces mots. Et donc il y a deux corpus, et ces deux corpus ont été l'objet du conflit énorme pour savoir s'ils devaient être inclus dans le corpus, l'opus, thérésien ou non. Finalement, ils en ont été exclus. Donc, on pourrait dire que ceci, si on est dans une, ce ce qu'on va entendre et ce qui est publié, les cours de Michel Foucault au Collège de France ou ceci, n'est pas dans l'œuvre de Foucault. C'est quelque chose qui est périphérique, c'est quelque chose peut-être qu'on est en train d'inventer, même si vous me direz que, évidemment, l'esthétique de Hegel était un enseignement au départ, même s'il y a un certain nombre de, comme la collection de montres, un certain nombre de textes qui sont d'abord passés par l'oralité. Bon. Tout ça s'inscrit évidemment dans une problématisation de l'oral qui traverse les chantiers qui sont ceux d'un certain nombre de gens. Je pense à l'équipe qui travaille autour de Jacques Dallarin et Patrick Bouchon autour de l'enseignement de Georges Duby, de l'œuvre de Georges Duby et la manière dont Duby utilise son enseignement pour écrire véritablement des livres dans une transformation très singulière qu'ils ont décrit dans un certain nombre de publications. C'est quelque chose qu'on invente finalement dans ces objets, dans plus largement dans ce champ éditorial qui est, je tiens à le préciser, très différent de ce qui a pu être, ce qui est parallèle en ce moment, qui est la publication sous forme de volume d'entretiens, qui sont des entretiens qui étaient parus dans la presse. On voit ce que fait Art Press, par exemple, un certain nombre de figures, de Godard à Didier Berman, et puis ce que le magazine littéraire fait. C'est-à-dire que là, on part véritablement de l'oral. Et donc, c'est ce geste que j'aimerais interroger, pas très longuement, finalement, de cette audiographie, de ce qu'on pourrait appeler ces prises de parole. Qu'est-ce que c'est que ces prises de parole qui ne seraient pas l'œuvre, mais qui néanmoins de plus en plus auraient tendance à recouvrir, puisque si on regarde aujourd'hui l'enseignement publié de Foucault, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus important quantitativement que les livres publiés, et qu'il le sera encore plus, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre d'archives vont être bientôt, on espère, disponibles juste derrière à la Bibliothèque nationale de France, à peu près 70 000 feuillets, et parmi eux un certain nombre d'enseignements que l'État français va acheter Donc je voudrais, dans les trois petits moments, m'attacher à décrire d'abord cette géographie de l'oral, puis revenir sur un certain nombre de prises de parole, mais comme façon de détourner la parole de position de pouvoir, pour enfin arriver à une autre pratique qui est celle de ce thème. Et tout ça à travers Foucault. Vous verrez que ce n'est pas sans lien avec la question de la littérature, puisque si Foucault parlait de la grande étrangère, c'était à propos de la littérature, et c'était dans ce rapport très complexe qu'il a entretenu. Puisque même s'il a d'abord enseigné la psychologie, quand il se retrouve en Suède, puis en Pologne et en Allemagne, c'est d'abord de littérature dont on parle, et en Tunisie c'est aussi de littérature dont on parlera pour le ministère des Affaires étrangères en tant que membre des services culturels. Et c'est pas ce caractère seulement biographique qui donne cette place à la littérature. C'est aussi que la littérature a toujours été dans les livres de Foucault, des moments, et on verra, vous pourrez le voir dans la langue étrangère, des moments où il fait entendre. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire dans son travail, de ce rapport à la langue. Il dit d'ailleurs que dans le Beaudanger, que cette langue, il l'a découverte avec dans l'étrangeté de l'exil qui était le sien en Suède en 1957-58. Il faut imaginer la Suède à cette époque. C'était quand même très austère. Voilà, avec un espace très hostile aussi. Alors pour commencer, donc, je voudrais revenir sur ce grand partage entre l'écrit et l'oral. Bon, c'est évidemment très à grande enjambée dans nos pratiques de recherche, avec une géographie de l'écrit qui ne recoupe pas ou très peu la géographie de l'oral, avec cette distinction forte, enfin je crois, ou en tout cas pour être chercheur au CNRS, je vois, entre le professeur et le chercheur.
Monsieur, vous n'êtes pas présenté, vous êtes...
Ah oui, pardon, je suis Philippe Arthier. Voilà, je suis chercheur à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie contemporaine. Je suis membre du laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, le LAIC. Au sein du IAC, lui-même, puisque nous sommes comme des oignons, recouverts d'états de folie, au sein de l'école des hautes études en sciences sociales, mais au sein du CNRS. Voilà. Oui. Non, mais c'est important de savoir qui parle. Donc, dans cette géographie, il y a quand même ce partage. Alors, qu'est-ce que c'est que la géographie de l'écrit? Bon, là, je vous renvoie évidemment aux travaux de Christian Jacob autour des lieux de savoir, de la bibliothèque aux archives, au bureau personnel, mais aussi on peut considérer les journaux et à certains égards les revues comme les lieux de cette géographie de l'écrit, sans parler des livres. Il faut aussi se souvenir que, par exemple, la grande polémique qu'il y a eu, controverse qu'il y a eu entre Merleau-Ponty et Sartre, s'est faite à travers les temps modernes par des correspondances, puisqu'il était publié. Si vous reprenez plus récemment les numéros d'Esprit, vous voyez aussi qu'il y a tout des échanges et des correspondances importantes. Mais c'est plutôt du côté de l'oral que je voudrais m'arrêter, avec bien évidemment des lieux comme ceux-là, des salles comme celle-là, de séminaires, la classe, hein, l'amphithéâtre aussi, ce qu'on oublie souvent, le colloque. Le colloque, mais que le colloque est une forme d'échange absolument récente. Que, en gros, il a commencé à y avoir des colloques début des années 70, un petit peu avant, en dehors évidemment de ce qui a pu constituer très longtemps un modèle justement d'échange qui était Cerisy en France, puisque en France nous avons assez peu d'associations professionnelles comme nos collègues anglo-saxons ont, c'est-à-dire qui se réunissent chaque année dans des congrès. Même si, du côté des historiens, c'est des choses qui existaient, qui ont existé avec la société de 1848, ou le 19e siècle. Voilà, ces associations professionnelles ne sont pas hyper. Et ce monde de l'oral, en dehors de l'enseignement, il existait, il existe assez peu, et était concurrencé par celui du politique. Au fond, l'espace de la parole, c'est celui du politique. Bon, là-dessus, je renvoie à la fois aux travaux aux travaux de plusieurs chercheurs ici ou ailleurs, que ce soit Marc Averès ou que ce soit ceux de Delphine Gardet, sur la, la manière dont l'oral passe à l'écrit par la prise de notes. Tout ce qui se... Là encore, hein, c'est une intervention introductive ou parallèle à ce que vous allez entendre. Ce n'est pas véritablement un séminaire, je vais dire. Donc je me permets quelques, voilà, quelques pas de côté et des grands pas, mais la chambre incarne. Donc, la parole du côté du politique et du côté du judiciaire, puisqu'en France, à la différence encore une fois de, de la justice anglo-saxonne, enfin du monde anglo-saxon, a cette pratique de noter, hein, tout se fait aussi par écrit. Nous, quand on rentre dans une chambre d'assises, eh bien, c'est un théâtre va avoir lieu qu'une fois et qui n'aura pas d'autres traces que le verdict et la sentence des membres du jury. Ces deux pôles justice politique, ils ont eu tendance à happer parfois les chercheurs en sciences sociales et à commencer évidemment par Zola et par bon, on revient à la littérature mais avec cette figure de l'intellectuel qui rentre au tribunal et ça d'autres et des auteurs d'ailleurs de la maison comme Vincent Duper l'ont montré comment les chercheurs les scientifiques entrent mais on pourrait évoquer des figures là encore, pour certains qui sont très connus, hein, comme celle de Sartre qui prend la parole à Billancourt, ou toute une dimension qui reste, à mon avis, à étudier. Et c'est l'un des intérêts, je crois, de la publication de ces textes. C'est le rapport des chercheurs à la raconte. Ça, c'est vraiment une chose assez passionnante, qui, à ma connaissance, peut-être des thèses, j'ai pris quelques distances de cette maison, mais c'est vraiment un objet absolument passionnant, puisque juste après la guerre, en fait, la maison de la radio, enfin la radio, et plutôt, ce sont plutôt des poètes qui vont être les grands maîtres d'œuvre de la. Deviendra France Culture et pas tellement des chercheurs en sciences sociales. Or aujourd'hui, si on regarde, il y a quand même une forte présence des chercheurs en sciences sociales au sein de la radio, enfin, tout simplement des chercheurs ou de gens qui ont été formés en tout cas dans les sciences sociales. Alors, ce que je je voulais, à partir de là, voir avec la figure de Foucault, c'est comment, dans ce paysage-là, Foucault a pu jouer et se jouer et déjouer, d'une certaine manière, ces dispositifs de prise de parole extrêmement, extrêmement fermés, et extrêmement quand même... c'est une des raisons pour lesquelles je crois que Foucault a reçu du côté du monde du théâtre un certain écho. Donc, ces jeunes femmes sont collectif au 71 est un des témoignages, mais il faudrait évoquer aussi le travail de Jourdeuil, de Jean Jourdeuil il y a quelques années déjà, en 2004, et un certain nombre d'autres expériences. Pourquoi je dis déjouer c'est que sans doute, Foucault a transformé ces moments-là en des moments de, en des actes de parole, des actes de parole qui, encore une fois, et c'est pas pour rien qu'ils sont à côté de l'œuvre, mais qui sont vraiment une autre manière de chercher. Ce n'est pas seulement des modalités d'énonciation du savoir, mais c'est une autre manière de chercher. Alors je prendrai trois exemples de ces actes de parole qui sont aussi des actes de savoir. Alors un premier qui est peut-être l'entretien avec ce livre de Foucault qu'il faudrait un jour rééditer, qui est un livre de Foucault sans Foucault sur la couverture, mais le nom d'un jeune homme de 78 qui s'appelle Thierry Wetzel. Et Thierry Wetzel est un jeune homme que Foucault a rencontré sur l'autoroute de l'Ouest, alors que Foucault part en Normandie sur le tournage de Moi, Pierre Rivière, le film de René Alliot, fait adaptation de Moi, Pierre Rivière, ce mémoire du parricide aux yeux roux, des années 1830, mémoire qu'il écrit, que Pierre Rivière écrit en prison, et qu'il va et que Foucault déterre et édite. Alors c'est à la fois un texte écrit et en même temps l'hypothèse de Foucault et du groupe avec lequel il travaille, c'est que ce texte a d'abord été oralisé. C'est-à-dire que c'est d'abord un texte que Rivière s'est dit à lui-même et a énoncé, et il l'a couché sur la feuille. Alors là, il rencontre ce jeune homme, de 18 ans, et il décide de faire de 20 ans, puisque c'est ça, le livre s'appellera Avoir 20 ans. Il fait un entretien avec ce jeune homme qui est un jeune homosexuel sur son parcours homosexuel et de militant homosexuel. Mais il va se mettre dans la situation de celui qui pose les questions et supprimer totalement son nom. Le texte va apparaître dans la collection de Clavel. Alors, je ne sais plus si c'est la collection de Clavel ou de Mauriac. Mais si c'est Mauriac qui fait, je crois que c'est Mauriac qui fait une préface. Je me trompe. C'est au début des années 80 une autre pratique de Foucault que celle de donner un entretien au journal Le Monde, mais masqué, c'est-à-dire sans visage. C'est qu'à sa mort, on saura que c'était le philosophe masqué qui était Foucault. Et puis c'est ce petit entretien, qui est en fait plus long d'ailleurs, dans sa version. Il y en a une autre partie qui porte sur l'enseignement et sur la situation de l'université en 1968. Avec Claude Bonnefoy, entretien qui est vécu sous le mode de l'expérience et qui ne donnera pas lieu à une publication, mais qui sera comme un moment de parole. Foucault, pour la première fois et l'unique fois, s'y dévoile en tant qu'écrivain. Et donc, ça nous a semblé intéressant que ça se passe par la parole. Cette émergence d'un sujet écrivain chez Foucault se fasse dans cet entretien. On dit que en 84, Foucault était sur la liste du Nobel de littérature. Et c'est vrai que dans ce texte, il parle énormément de ce rapport à l'écriture et de la manière dont finalement il entretient avec la littérature pas seulement un rapport d'étrangeté, mais aussi une formidable proximité dans les gestes écrit. D'ailleurs, quand on examine les archives, on voit combien Foucault aimait faire des mises au propre hein, de ses textes. Et ce sont des sortes de couches comme ça, de, très peu de rappels. L'autre figure, c'est évidemment celle de la parole collective, qui n'est pas seulement, seulement celle de Foucault, mais qui pourrait être celle d'une génération, c'est-à-dire à un moment donné, le visage s'efface, le nom s'efface pour produire un discours. Je pense notamment au slogan, et au slogan de notamment au moment des affaires autour de la goutte d'or, de l'affaire Djellali, qui est une affaire du meurtre d'un jeune maghrébin, qui est liée aussi à des affaires d'immobilier. Cette parole collective dont on a aujourd'hui beaucoup de mal, à certains égards, à retrouver, était une. Alors ensuite, la radio. Donc je l'ai dit, c'est un moment où on avait essayé de le montrer avec Jean-François Baird dans un travail sur l'histoire de la radio. Foucault n'a cessé de défendre ses livres, et notamment l'histoire de la faute, à la radio. Il a entrepris, et vers le public littéraire, il a entrepris, vous en, si vous voulez, vous en entendrez sous l'orage quelques fragments. Il a entrepris de s'adresser au littéraire qui n'était pas directement le public. Et le lectorat de l'histoire de la faute. C'est une sorte de geste très fort, non pas de défense, mais d'ouverture de son livre par une réalisation. L'œuvre radiophonique de Foucault est considérable. En fait, il n'y a pas seulement 5 émissions, il y en a beaucoup d'autres, et ces émissions. Il a été à la fois comme dans un texte que je crois que vous avez monté au mois de janvier au Théâtre de la Bastille qui s'intitule Le corps utopique. Il a été à la fois à la fois producteur au sens de les producteurs l'écrit ce qu'on entend, mais il a été aussi ce qu'on appelle producteur délégué, c'est-à-dire qu'il a suivi aussi des séries, il y a un ensemble de, je sais pas, d'une soixantaine d'émissions. Là, il y a des corpus très 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 importants qui vont au-delà de la question de l'intervention. Foucault est effectivement allé au lundi d'histoire qu'on connaît encore, interrogé, mais reçu, je crois que c'était par Roger Chartier. Avec Arlette Farge pour le désordre des familles. Alors je voudrais puisque je vais bientôt arrêter, peut-être, et parce que c'est une dimension très, très forte, y compris dans ces textes et dans le parcours de Foucault, c'est celle du silence et de la place du silence chez Foucault, mais aussi chez les chercheurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du silence, qu'est-ce qu'on fait, et le cas de Foucault est intéressant parce qu'il pose un certain nombre de jalons pour penser ces silences, mais des silences actifs. Pour reprendre la formule de plateforme active, plateforme juridique dans les années, début des années 60. Alors avec le groupe Information Prison, donc qui est un groupe qui se crée pendant 2 années autour de Domenac, Foucault et Pierre-Vidal Naquet, et un certain nombre de militants du Secours Rouge, l'idée là est de faire entendre la parole de ceux précisément qu'on n'entend pas. Donc c'est vraiment cette idée assez, assez novatrice, ce n'est pas parler à la place d'eux, mais c'est se faire le relais. C'est-à-dire dans la position de pouvoir dans laquelle ils sont, se faire le relais de ce qui s'énonce ou est à la ligne, enfin, comment dire, à la frontière de l'énonciation, qui est murmurée donc dans les prisons, mais aussi dans les asiles, mais aussi dans les hôpitaux, mais aussi dans les casernes, mais aussi un ensemble des sans-voix d'alors. Ça, je trouve que c'est assez, assez important et intéressant aujourd'hui, au moment où on se pose la question des archives des sciences sociales, et notamment des archives de la sociologie et de l'anthropologie, de se poser la question de savoir ce que sont au fond ces archives, et si le plus précieux dans ces archives, ce n'est pas la parole recueillie par des chercheurs, de gens qui ont totalement disparu, mort, enfin, je pense notamment à tout ce qui a pu moins m'intéresser du côté des archives l'Agence nationale de recherche sur le sida, et avant ça, par exemple, aux archives de Michael Pollack, qui les archives sont des archives absolument extraordinaires dans la mesure où a été recueillie à un moment donné une parole qui, si elle n'avait pas été recueillie, aurait totalement disparu. Et là, chez Pollack, il y a très clairement ce geste-là certains diraient, de recueillir le dernier locuteur. Et le dernier locuteur, ou en ce sens, avoir entendu, enfin, enregistrer le dernier mot. Alors, je l'ai dit un tout petit peu, il y a aussi dans ces usages du silence le fait de non pas de faire entendre une parole mais de incarner la parole de l'autre. Alors, il y a deux exemples qui n'ont pas, voilà, qui sont à la fois anecdotiques et en même temps qui disent quelque chose. Je crois que le tout, c'est pas c'est pratique. C'est vous parlez de slogan de Thierry Wetzel, rencontré vers le tournage des intermédiaires. Pourquoi à un moment donné un juge donc se incarne bon, ces rushs là vont disparaître d'une page. Je ne sais plus si dans le film de Philibert on voit cette parole de la sécurité. Des bulletins de la mutinerie de Nancy le 15 janvier 72.
Alors, ensuite,
le procès a lieu en juin à Nancy, au théâtre
du Soleil, à la Cartoucherie.
Le procès de Nancy est joué, et Foucault, Defebvre et un certain nombre de ses militants vont jouer. Et notamment l'histoire de la côte à la radio. Tant, et dans le silence, et vers la terre, en plus ils incarnent, il a entrepris une et ça, c'est. Et puis, un dernier exemple qui montre combien ce silence est aussi parfois action, qui est le silence des. Ce qu'on a appelé le silence des intellectuels, au début des années 80, ce qui raconte aussi. Un moment d'une histoire politique, c'est-à-dire le moment où, un certain nombre de gens d'ailleurs qui sont aussi encore ici décident de ne pas être les compagnons de route du Parti Socialiste et de Mitterrand qui arrive au pouvoir et donc de rester dans un certain retrait par rapport à l'action gouvernementale. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et de non pas de ouvrir de parler, mais d'agir au moment notamment de la crise polonaise. on voit bien certains égards, les analogies qui peuvent, même si les contextes historiques sont très différents, penser à des situations contemporaines avec ce geste très fort qui consiste à aller en Pologne après la loi martiale. Alors vous me direz, évidemment, tout ça est très loin de la littérature, et en même temps, Foucault ne cesse de lire et de mobiliser un certain nombre d'œuvres qui sont toujours dans un rapport immédiat à une activité, et toujours dans cette, précisément, dans ces lieux qui sont des lieux qu'on ne regarde pas, ou une littérature qui n'est pas lue. Je pense à Roussel, il est largement question, je pense aussi à Brisset, il y a tout un ensemble d'écrivains qui constituent la bibliothèque que Foucault va véritablement publier, puisque c'est des textes qui étaient très peu connus et qui vont être entendus. Donc il y a peut-être, c'est un petit point, il y a peut-être cette idée que parler, c'est d'abord faire entendre une autre langue, qui est peut-être la belle étrangère. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole.
RTF, France 3 nationale, présente l'usage de la parole. Aujourd'hui, le langage de la folie. Deuxième émission par Michel Foucault.
Michel Foucault, vous êtes en train de commettre une série d'émissions dans le cadre de l'usage de la parole sur le langage de la folie, n'est-ce pas ? Avouez-le.
Oui, oui.
Et vous avouerez également que la première émission de la série que vous faites s'est passée la semaine dernière et avait pour titre « La folie et la fête ». Quel est le sujet de votre deuxième émission ?
Bien. Alors, je voudrais consacrer cette deuxième émission à quelque chose qui concernerait l'envers, l'autre côté de la fête, qui serait, si vous voulez, le silence des fous. Mais je crois que vous avez une objection à me faire, et je voudrais précisément que nous en discutions, puisque Jean Daude, vous êtes homme de théâtre et que vous voulez bien réaliser cette émission. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi sur l'interprétation que j'ai donnée du rôle respectif de la fête et du théâtre à l'égard de la folie. Moi, j'ai plutôt l'impression que le théâtre tourne le dos à la fête, tourne le dos à la folie, qu'il essaie d'en atténuer les pouvoirs, d'en maîtriser la force et la violence subversive au profit d'une belle représentation. Le théâtre, au fond, déchire les participants de la fête, pour faire naître d'un côté les acteurs, et puis de l'autre les spectateurs. Il substitue au masque de la fête, qui est un masque de communication, quelque chose qui est une surface de carton, de plâtre, plus subtil, mais qui cache et qui sépare. Bien, je vais vous dire, ce n'est pas une opinion qui est uniquement personnelle. Je pense avec beaucoup de gens, notamment avec le bon maître Alain, que le théâtre est né du besoin qu'a de s'exprimer une communauté vis-à-vis d'elle-même. Au fur et à mesure des perfectionnements, une partie de cette communauté est devenue professionnelle. Ils s'appellent auteurs, acteurs, décorateurs et toutes les professions qui servent le spectacle. Et l'autre partie s'appelle spectateur. Mais je crois, comme le pense encore Alain, que j'appelle à mon secours, car je pense que vous m'aimez bien, je pense qu'Alain n'a pas oublié de mettre aussi le moment du spectacle dans la fête et dans la cérémonie. Pour ma part, je pense que jamais le théâtre n'est aussi beau que quand il se fait en dehors des lieux créés pour lui. Pensez à des festivals, pensez à des représentations devant certains paysages,
devant certains parvis de cathédrales, au fond, je pense tout simplement qu'il y a toujours cette espèce d'équilibre à rechercher entre la force apollinienne et la force dionysiaque.
Et vous pensez que le théâtre est du côté du dionysiaque, alors que je pensais plutôt qu'il est du côté de l'apollinien?
En réalité, je pense tout simplement que le théâtre est comme tout art, mais plus que tout autre art, une recherche de dépassement de l'homme. Et que l'homme se reconnaît dans ce personnage qui, sur le théâtre, se dépasse.
Eh bien, écoutez, voulez-vous que nous fassions une expérience?
Bien sûr.
Si nous écoutions une scène du roi Lear, la grande scène de folie du roi Lear, la scène sur la lande, eh bien, nous pourrions peut-être juger et rendre juge les auditeurs de notre débat.
À crever au jour, faites rage, soufflez, trombes et cataractes, jaillissez jusqu'à tremper nos clochers, jusqu'à noyer leurs coques, feu de soufre immédiat comme l'idée, avant-coureur de foudre fendeuse de chaînes, venez roussir ma tête blanche. Et toi, tonnerre, grand ébranleur, aplatis l'épaisse rotondité du monde, craque les moules de la nature, disperse d'un seul coup tous les germes qui font l'homme ingrat.
Oh, oncle, mieux vaut de l'eau bénite de cour dans une maison sèche que cette eau de pluie à découvert. Rentrons, bon oncle. Demande à tes filles leur bénédiction. Cette nuit-là n'a pitié ni du fou ni du sage.
Gargouille à pleine ventrée. Crache. Feu, jaillit, pluie, vent, tonnerre, ni feu, ne sont ni filles. Je ne vous taxe point vous autres éléments d'ingratitude. Je ne vous ai jamais donné de royaume, ni appelé mes enfants. Vous ne me devez aucune obéissance. Laissez donc choix à votre horrible plaisir. Me voici votre esclave. Pauvre vieillard infirme, débile et méprisé. Et pourtant, je vous déclare ministre servile pour avoir à deux filles pernicieuses allié vos bataillons engendrés dans les nues contre un chef aussi vieux et blanc que celui-ci. Oh, c'est infâme.
Quiconque à maison ou fourré son chef a bon couvre-chef. Si la braguette trouve gîte devant que le chef soit pourvu, chef et braguette iront pouilleux, ainsi qu'on vole mendicant. Quiconque fait de son orteil ce qu'il doit faire de son cœur, un durillon le fera geindre au grand dépens de son sommeil. Car il n'eut jamais jolie femme qui ne fit des mines au miroir.
Non, je veux être le modèle de toute patience. Je ne dirai rien. Qui va là?
Morbleu. Une majesté et une braguette, c'est-à-dire un sage et un fou.
Hélas, monsieur, êtes-vous donc ici? Les créatures qui aiment la nuit n'aiment pas les nuits comme celle-ci. Les cieux encourous effarouchent jusqu'aux rôdeurs des ténèbres et les retiennent dans leur antre. Depuis que je suis homme, je ne me souviens pas de telles lapes de feu, de tels éclats d'horrifiques tonnerres, de telles plaintes gémies par le vent et la pluie. La nature humaine n'en saurait supporter l'affliction ni la crainte. Que les grands dieux qui tiennent suspendu ce fracas redoutable au-dessus de nos têtes découvrent à présent leurs ennemis. Tremble, misérable, qui portes en toi des crimes non divulgués, non flagellés par la justice. Cache-toi, main sanglante. Et toi, parjure. Et toi, qui feint la vertu dans l'inceste. Fais donc, tremble à te briser, qui, sous le couvert d'une décente apparence, attentas à la vie de l'homme. Forfaits étroitement scellés, rompez les prisons qui vous y contraignent et criez grâce à ces terribles justiciers. Pour moi, je suis moins pécheur que victime du péché. Hélas, tête nue. Mon gracieux seigneur, toute proche est une hutte. Elle vous prêtera quelque amitié contre la tempête. Prenez-y repos. Tandis qu'à cette dure maison, plus dure que la pierre dont elle fut construite, qui tout à l'heure encore, comme je vous demandais, m'a dénié son accès, je fais retour et force leur courtoisie avare.
Nos esprits commencent à t'en envier. Viens, mon enfant. Comment te sens-tu, mon enfant? As-tu froid? J'ai froid moi-même. Où est ce chaume compagnon? Rare et étrange de nos nécessités qui fait précieuses les choses viles. Allons à votre hutte. Pauvre fou servant, il est encore une part de mon cœur qui te prend en pitié.
Il me semble, Jean Do, que cette scène que nous venons d'entendre nous donne raison à tous les deux. Et à cela, il n'y a pas grand-chose d'étonnant, puisque le roi Lear, c'est sans doute la très rare, la très solitaire expression d'une expérience pleinement et complètement tragique de la folie. Elle est sans équivalent aucun dans une culture comme la nôtre. Parce que notre culture a toujours pris soin, au fond, de tenir la folie à distance et de jeter sur elle le regard un peu lointain, justifié toujours, malgré quelques complaisances parfois, du comique. Mais voyez déjà cette mince déchirure que l'on constate dans le langage de Cervantes. Le tragique de Don Quichotte, il n'habite pas la folie même du personnage, il n'est pas la force profonde de son langage. Le tragique dans Don Quichotte, il se situe dans le petit espace vide, dans cette distance parfois imperceptible qui permet non seulement au lecteur, mais aux autres personnages, mais à Sancho, mais à Don Quichotte lui-même finalement, d'avoir conscience de cette folie. Et alors, ce sentiment inquiétant et pâle qui offre à Don Quichotte et puis lui retire en même temps une lumière sur la folie, il est très différent de la souffrance du roi Lear, qui du fond de sa folie, lui, savait qu'il était en train d'y tomber, et d'y tomber d'une chute qui ne devait pas s'arrêter avant la mort. Don Quichotte, au contraire, il peut toujours se retourner. Il est toujours à deux doigts de se retourner sur sa propre folie. Ça y est, il va en prendre conscience, et puis non. Finalement, il continue à s'aveugler. Et puis, viendra tout de même le moment où le retournement se fera. Mais la loi tragique de sa folie veut que ce retournement, cette conscience brusquement de sa propre folie, comme au sortir d'une fièvre, bien, elle débouche sur la mort et la certitude incontournable de la mort.
Je ne sais si cela procéda de la mélancolie que lui causait le souvenir d'avoir été vaincu, ou bien de la volonté du ciel qui l'ordonnait ainsi, quand il y a qu'une fièvre le saisit, laquelle le retint 6 jours au lit. Durant ce temps, le curé, le bachelier, le barbier, ses amis, le visitèrent plusieurs fois. Sans que Sancho pensât, son bon écuyer abandonna jamais son chevet. Don Quichotte pria qu'on le laissât seul, parce qu'il voulait un peu dormir. On le fit. Et il dormit tout d'une traite, comme on dit, plus de 6 heures, si bien que la gouvernante et ma nièce croyaient qu'il devait être parti pendant le sommeil. Il s'éveilla pourtant au bout de ce temps et, poussant un cri, se mit à proférer ces paroles. « Béni, béni soit le Dieu puissant qui m'a fait tant de bien. Je possède à cette heure un jugement libre et clair et qui n'est plus couvert des ombres épaisses de l'ignorance que la lecture triste et continuelle des détestables livres de chevalerie avait mises sur moi. Je reconnais leur extravagance. » Du prix. Agnès, je me sens proche de la mort et je voudrais bien qu'elle fût d'une façon qui donna à entendre que ma vie n'avait pas été si mauvaise que le nom de fou m'en demeura, car encore que je l'ai été en ma vie, je ne voudrais point confirmer cette vérité à ma mort. Ils se regardèrent les uns les autres, étonnés des raisons de Don Quichotte. Encore qu'il fût doux de le croire, Mais l'un des signes qui leur fit conjecturer qu'il s'en allait mourir fut qu'avec tant de facilité de fou, il était devenu sage. Enfin, le dernier jour de Don Quichotte arriva. Après qu'il eut reçu tous les sacrements et après avoir maudit par plusieurs et belles raisons les livres de chevalerie. Le notaire se trouva présent à sa mort et dit que jamais il n'avait trouvé en livre de chevalerie qu'aucun chevalier errant fût mort dans son lit aussi paisiblement et chrétiennement que Don Quichotte, lequel, parmi les plaintes et les larmes des assistants, rendit l'âme, c'est-à-dire mourut. Telle fut la fin de l'ingénieux gentilhomme de la Manche. On n'a pas voulu mettre ici les plaintes de Sancho, de la nièce et de la gouvernante de Don Quichotte, ni les épitaphes que l'on grava sur sa sépulture.
Passant, dans ce tombeau gît un homme de marque. Le vaillant Don Quichotte, il fut si valeureux que par des faits grands et chevalereux, sa vie a triomphé de l'invincible parc. Ce fier épouvantail avait tant de courage qu'au lieu des gros géants, qu'à lui des gros géants n'étaient que des moineaux, il fit à son trépas des miracles nouveaux, car s'il vécut en folle, il mourut homme sage. Ce qui m'intéresse dans cette épitaphe et toute la fin de Don Quichotte, c'est que cela prouve une chose. C'est que maintenant, la folie et la conscience de la folie sont comme la vie et la mort. L'une tue l'autre. La sagesse peut bien parler de la folie, mais elle en parlera comme d'un cadavre. La folie, elle, en face, va rester muette, pur objet pour un regard amusé. Et pendant toute l'époque classique, les fous vont faire partie d'un paysage social. D'un paysage social pittoresque qui sert tout au plus à relancer une inquiétude sceptique. Après tout, je pourrais moi-même être fou, mais je n'en sais rien, puisque la folie est inconsciente et que tous les autres étant fous, je n'ai point de repère pour savoir si je le suis ou non. Mais ce sont là jeux de prince et exercices d'esprit subtils ou retors.
Ce qui m'intéresse dans cet âge classique, c'est un fait massif, un fait historique sourd qui est resté longtemps silencieux, peut-être qu'il n'est pas très important pour l'histoire des historiens, à moi. Il me paraît d'un grand poids pour qui veut faire l'histoire d'une culture. Le voici. Un jour, d'avril 1657, on a arrêté à Paris à peu près 6 000 personnes. 6 000 personnes dans le Paris du XVIIe siècle, c'est à peu près un centième de la population. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on arrêtait quelque chose comme 40 000 personnes. Ça fait beaucoup de gens et on en entendrait parler. Ces gens, on les emmenait à l'hôpital général. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils étaient chômeurs, ils étaient mendiants, ils étaient des inutiles, ils étaient des libertins, c'était des excentriques, c'était aussi des homosexuels, des fous, des insensés. Et on les envoyait à l'hôpital général sans qu'on ait pris à aucun moment contre eux une mesure juridique précise. C'était une simple précaution de police, un ordre du roi, ou encore, ce qui est plus grave à mon sens, une simple supplique de la famille qui suffisait à envoyer tout ce beau monde à l'hôpital, et à l'hôpital pour la vie. Cet hôpital n'avait évidemment rien d'hospitalier, c'était beaucoup plus une sorte de grande prison où on gardait les gens à vue, et même souvent on les gardait à vie. Cette pratique a duré près d'un demi-siècle, d'un siècle et demi, pardon, et de cet énorme rituel d'exclusion qu'on a rarement interrogé d'ailleurs, on n'a gardé que quelques registres poussiéreux qu'on trouve actuellement à la bibliothèque de l'Arsenal. Et sur ces registres, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, la longue rhapsodie des motifs d'internement. Je crois qu'ils méritent d'être écoutés. Ces décrets que la raison d'État, c'est-à-dire finalement, la raison des gens de police et la raison des gens de tous les jours portaient sur la folie des autres. Voici, par exemple, quelques motifs d'internement pour le mois de janvier
1735.
Dans son quartier. 6 janvier, forestier Jean-Pierre, il tombe souvent en frénésie, en raison de quoi il a été condamné à Rouen et à être enfermé. 10 janvier, Gauthier Étienne. C'est un libertin qui maltraite sa femme avec cruauté et cherche tous les moyens de la faire assassiner. 17 janvier, Malbert. Il est connu depuis longtemps pour un dangereux sujet et tapageur qui n'a d'autre profession que de soutenir de mauvais lieux. Il vivait en dernier lieu avec la nommée Labaume et il a fait plusieurs tentatives pour assassiner son mari. 19 janvier, Tablecourt. Elle a l'esprit aliéné. 19 janvier, François-Antoine. Il a été trouvé chez lui des marchandises qu'il a convenu d'avoir volées à différents marchands. 24 janvier, Latour, Dupont, Joseph. C'est un furieux qui a été condamné à être rompu pour un assassinat et qui est tout à fait folle. 25 janvier, Guillotin Michel. C'est un violent qui maltraite sa femme avec cruauté, qui a cassé ses meubles, qui insulte ses voisins, qui insulte ses pères et mères et les fait mordre par un gros chien. 31 janvier, La Porte Charlotte. C'est une convulsionnaire. 31 janvier, Rousseau Marie-Jeanne. Elle est folle et sans espoir de retour. 31 janvier, Duval. C'est un insensé. 31 janvier, Migneron Anne. Elle est servante du sieur Buquet dont elle est grosse. 31 janvier, Dubot Jean-François. Il ne cesse de maltraiter sa femme qui le ruine et qui l'a réduite à la misère avec un enfant. Il est livré à toutes sortes de débauches.
Voyez combien la raison est laconique et impérative lorsqu'il s'agit pour elle de juger le contraire d'elle-même. C'est ce qu'elle a fait pendant toute la période classique. Et cependant, pour qui tend l'oreille, il y a comme un sourd murmure que l'on peut percevoir, comme si la folie, même pendant toute cette période du rationalisme classique, cherchait à recomposer son langage. Et le philosophe peut-être le plus attentif du XVIIIe siècle, Diderot, il l'a vu se reconstituer cette expérience sous ses yeux et dans une pure gesticulation traversée de cris, de bruits, de sons, de larmes, de rires, comme une sorte de grand blason sans mots de la folie. Et c'est cela, la danse du neveu de Rameau.
Et puis le voilà, il se met à se promener, en murmurant dans son gosier quelques-uns des airs de l'idée fou, du peintre amoureux de son modèle, du maréchal Ferrand, de la plaideuse. Et de temps en temps, il s'écriait, en levant les mains et les yeux au ciel, « Si cela est beau, mordieu, si cela est beau !» Il commençait à rentrer en passion et à chanter tout bas. Il élevait le ton à mesure qu'il se passionnait davantage. Vinrent ensuite les gestes, les grimaces du visage et les contorsions du corps, et je dis bon. Voilà la tête qui se perd et quelques scènes nouvelles qui se préparent. En effet, il part d'un éclat de voix. « Je suis un pauvre misérable. Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir. Ô terre, reçois mon or, conserve bien mon trésor, mon âme, ma vie, ô terre. Le voilà le petit ami, le voilà le petit ami. Aspettare non venire, Azelina penserete sempre in contrasti con te ci sta. Il entassait et brouillait ainsi ensemble 30 airs italiens, français, tragiques, comiques, de toutes sortes de caractères. Tantôt avec une voix de basse taille, il descendait jusqu'aux enfers. Tantôt s'égosillant et contrefaisant le fossé, il déchirait le haut des airs, imitant de la démarche, du maintien, du geste, les différents personnages chantant. Successivement furieux, radouci, impérieux, ricaneur. Ici, c'est une jeune fille qui pleure et il en rend toute la minauderie. Là, il est prêtre, il est roi, il est tyran, il menace, il commande, il s'emporte, il est esclave, il obéit, il s'apaise, il se désole, il se plaint, il rit. Jamais hors de ton, de mesure, du sens des paroles et du caractère de l'air. Tous les pousses bois avaient quitté leur échiquier et s'étaient rassemblés autour de lui. Les fenêtres du café étaient occupées en dehors par les passants qui s'étaient arrêtés au bruit. On faisait des éclats de rire à entrouvrir le plafond. Lui n'apercevait rien. Il continuait, saisi d'une aliénation d'esprit, d'un enthousiasme si voisin de la folie, qu'il est incertain qu'il en revienne, s'il ne faudra pas le jeter dans un fiacre et le mener droit aux petites maisons. Admirais-je? Oui, j'admirais. Étais-je touchée de pitié? J'étais touchée de pitié. Mais une teinte de ridicule était fondue dans ses sentiments et les dénaturait. Ce neveu de Rameau, cet étrange personnage, il me semble que son profil, à la fin du XVIIIe siècle, dessine une symétrie par rapport à celui d'un homme pourtant bien différent, qui est Sade. Chez Sade, rien sans doute de ce qu'on trouve chez le neveu de Rameau. Le discours de Sade, eh bien, c'est ce discours infini, méticuleux, inépuisable, rigoureusement contrôlé dans ses moindres articulations. Et je crois qu'à la pantomime du neveu de Rameau, qui est rejeté partout, qui est chassé par ses protecteurs, qui court les rues après un dîner ou un cachet, et qui appelle la folie de ses gestes, répond, comme figure symétrique et inverse, eh bien, la grande immobilité de Sade. Sade, soigneusement enclos pendant 40 années, et qui n'a cessé de parler, lui, le discours pur, d'une folie sans geste, sans excentricité, la pure folie d'un cœur démesuré. Et voilà justement que cette parole si raisonnable de Sade, si infiniment résonante, voilà qu'elle a réduit notre raison à nous, au silence, ou du moins à un embarras, un bégaiement. Notre raison ne peut plus retrouver sa belle ardeur à décréter.
Il faut entendre, par exemple, la gêne du pauvre médecin de Charenton qui s'appelait Royer Collard et qui, nommé dans cet asile, dans ce qui venait d'être transformé précisément en asile pour les malades mentaux, a découvert quelqu'un qui s'appelle Sade. Alors il est affolé. Il s'inquiète en tout cas et écrit aussitôt au ministre de la police, à Fouché. Il lui écrit pour lui dire que Sade ne doit pas être maintenu dans un asile de fous parce que Sade n'est pas fou. Ou plutôt qu'il est fou, mais d'une folie qui n'en est pas une. Ou plutôt d'une folie qui est pire qu'une folie puisqu'elle est raisonnable et lucide. Et qu'elle est lucide, d'une lucidité qui contredit toute raison et qui finalement retrouve la folie. Enfin, le brave Royer Collard ne s'en sort pas, se sentant au fond d'un abîme dont nous-mêmes, peut-être, ne sommes-nous pas encore sortis.
Monseigneur, j'ai l'honneur de recourir à l'autorité de votre Excellence pour un objet qui intéresse essentiellement mes fonctions ainsi que le bon ordre de la maison dont le service médical m'est confié. Il existe, à Charenton, un homme que son audacieuse immoralité a malheureusement rendu trop célèbre et dont la présence dans cet hospice entraîne les inconvénients les plus graves. Je veux parler de l'auteur de l'infâme roman de Justine. Cet homme n'est pas un aliéné. Son seul délire est celui du vice. Et ce n'est point dans une maison consacrée au traitement médical de l'aliénation que cette espèce de délire peut être réprimée. Il faut que l'individu qui en est atteint soit soumis à la séquestration la plus sévère. Je ne puis que présenter à votre Excellence qu'une maison de sûreté ou un château fort lui conviendrait beaucoup mieux qu'un établissement consacré au traitement des malades, qui exige la surveillance la plus assidue et les précautions morales les plus délicates.
Vous me direz que cette lettre de Royer Collard est bien banale et ordinaire, et il ne s'en dégage pas grand sens. Bien, je crois que si, pourtant. Cette lettre, par toutes les contradictions dont elle est pleine, je crois qu'elle indique. Elle indique quelque chose qui, dans notre culture, a été d'un grand poids. C'est cet embarras. Cet embarras qui ne nous quitte plus depuis le XIXe siècle, devant la folie et devant le langage de la folie. Cette lettre, c'est le constat, au fond, que cette folie qui avait été si bien cernée, cataloguée, internée à l'hôpital général, eh bien maintenant, on ne trouve plus de lieu précis où la signer. On ne sait plus d'où elle vient ni où elle va. Elle est sans feu ni lieu. Elle est sans foi ni loi. Alors on rêve.
Bien sûr, on rêve d'une forteresse fantastique où l'on pourrait l'enclore pour toujours. C'est ce que souhaite ce bon médecin Kerouaillet-Collard. Mais au fond, on sait bien qu'il n'existe pas ce château fort de notre absolue tranquillité qui réduirait à jamais la folie au silence. Désormais, depuis cet inlassable langage de Sade, eh bien, un vide est creusé sous nos paroles, d'où nous vient incessamment un langage imprévu. Ce n'est plus sans doute ce langage de la communion dionysiaque que nous avons constaté et que nous avons entendu au XVIe siècle. C'est un langage beaucoup plus difficile, beaucoup plus feutré, beaucoup plus sourd. Un langage qui part et parle d'une absence, d'un monde vide. C'était chez Sade le creux du désir jamais apaisé. Je crois que c'est chez quelqu'un comme Artaud, une sorte de vide central. Ce vide fondamental où les mots manquent, où la pensée se manque à elle-même, ronge sa propre substance, s'effondre sur elle-même. Et c'est là, dans cette impossibilité à parler, dans cette impossibilité à penser, dans cette impossibilité à trouver ces mots que la folie, dans notre culture, retrouve son droit souverain au langage. Non sans un dernier détour, cependant. La folie peut parler, mais à condition qu'elle se prenne elle-même pour objet. Et je crois que c'est une date importante que la correspondance entre Artaud et Rivière. Rivière, qui avait reçu des poèmes qu'Artaud aurait voulu faire publier à la NRF. Rivière, qui ne pensait pas pourtant que ses poèmes pouvaient être publiés. Alors Artaud répond, lui, et il voudra à tout prix les faire entendre, ses poèmes. Et pour les faire entendre, il se retourne vers cet effondrement de pensée d'où naissent ses poèmes. Voilà que Rivière, qui n'avait pas entendu les poèmes, voilà qu'il entend maintenant l'explication qu'on en donne. Et l'explication par Artaud de l'impossibilité où il est d'écrire des poèmes. Et finalement, cette explication devient document, devient poème pur, langage second, premier peut-être. Et c'est celui-là qui va constituer cette œuvre extraordinaire qu'est la correspondance d'Artaud et de Rivière.
juin 1923, monsieur, voulez-vous, au risque de vous importuner, nous permettre de revenir sur quelques termes de notre conversation de cet après-midi? C'est que la question de la recevabilité de ces poèmes est un problème qui vous intéresse autant que moi. Je parle, bien entendu, de leur recevabilité absolue, de leur existence littéraire. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Depuis le simple fait de la pensée, jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, forme de phrase, direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j'en souffre. Mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci est très mal dit et risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes, et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose, malgré tout, ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bien heureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre parfois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui ressortit à ce qu'il est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens, les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. Il ne s'agit pas, pour moi, de rien moins que de savoir si j'ai ou non le droit de continuer à penser en vers ou en prose, Antonin Artaud.
« 24 mai 1924. Cher monsieur, il m'est venu une idée à laquelle j'ai résisté quelque temps, mais qui décidément me séduit. Méditez-la à votre tour. Je souhaite qu'elle vous plaise. Elle est d'ailleurs encore à mettre au point. Pourquoi ne publierions-nous pas là où les lettres que vous m'avez écrites ? Je viens de relire encore celle du 29 janvier. Elle est vraiment tout à fait remarquable. Il n'y aurait qu'un tout petit effort de transposition à faire. Je veux dire que nous donnerions aux destinataires et aux signataires des noms inventés. Peut-être pourrais-je rédiger une réponse sur les bases de celles que je vous ai envoyées, mais plus développées et moins personnelles. Peut-être aussi pourrions-nous introduire un fragment de vos poèmes ou de votre essai sur Uccello. L'ensemble formerait un petit roman par lettre et qui serait assez curieux. Donnez-moi votre avis. Et en attendant, croyez-moi bien vôtre. Jacques Rivière.
25 mai 1924, cher monsieur, pourquoi mentir ? Pourquoi chercher à mettre sur le plan littéraire une chose qui est le cri même de la vie ? Pourquoi donner les apparences de fiction à ce qui est fait de la substance indéracinable de l'âme et qui est comme la plante de la réalité ? Oui, votre idée me plaît, le réjouit, elle le comble. La condition de donner à celui qui nous lira l'impression qu'il n'assiste pas à un travail fabriqué. Nous avons le droit de mentir, mais pas sur l'essence de la chose. Je ne tiens pas à signer la lettre de mon nom, mais il faut absolument que le lecteur pense qu'il a entre les mains les éléments d'un roman vécu. Il faudrait publier mes lettres de la première à la dernière et remonter pour cela jusqu'au mois de juin 1923. Il faut que le lecteur ait en main tous les éléments du débat. Antonin Artaud.
Notre culture retrouve enfin une oreille pour ce langage qui ne s'est jamais lassé qui déroute le nôtre. Et je pense que c'est grâce à ce travail souterrain de la folie dans le langage, contre le langage, de la folie pour récupérer son propre langage. Il me semble que c'est tout ce travail souterrain qui nous permet maintenant d'écouter d'une oreille fraîche, d'une oreille première, ce poème d'un malade que Ruspoli lui aussi a entendu un jour à l'hôpital de Saint-Alban.
Contraste, la neige sur la mer, les pans blancs, les crabes de terre, image, jeu de cartes, sablier de couleurs, les draps, tapisserie dont les personnages sont des générations vivantes. Bon, la nature crée. Alors là, je demande qu'on me suive, parce qu'on m'a dit que j'étais fou, parce que je prétends que la nature crée. Bon. La victoire de Samothrace, c'est pour cela qu'on m'a dit que j'étais fou. Elle fend l'azur. La voyant, il est difficile de croire qu'elle soit sortie de la main des hommes. Non que l'homme ne soit capable de l'admirable, mais je ne sais pas d'où me vient cette certitude. Il y a en elle quelque chose qui passe les œuvres de l'homme. Alors, un trait, une ligne, une lumière qui sort d'elle et y retourne, l'irradie. Elle n'est pas créée, elle crée. Voilà. Ça, c'est en dehors de tout. Personne ne voudrait dire que la montagne Sainte-Victoire, où Cézanne promena son incomparable regard, fut son œuvre, mais la victoire de Samothrace, elle n'a pu sortir que de la main des dieux. Un bleu théologique, aux confins de l'Île-de-France et de la Beauce, tout à coup, le le ciel avait été d'un bleu ténu, d'un bleu des miniatures du Moyen-Âge, un bleu des miniatures du duc de Berry, un bleu théologique. Où était la main? La main, si vous voulez, du Créateur.
Après, le poème est fini.
Séminaire, comme l'a précisé Philippe. Merci à vous.